Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas. Bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 22 avril, il est 8h30. Quel bonheur pour moi de vous retrouver au programme de cette matinale. Nous serons dans un instant par téléphone avec Caroline Descloître, une des trois metteuses en scène du spectacle Restez Rivage, qui se jouera ce week-end à Langogne. On en parle avec elle dans quelques instants. Et puis en deuxième partie d'émission, je suis allé à la rencontre de Laurence, elle est maraîchère à Bédouès, un reportage qui a été réalisé dans le cadre de Producteurs de Sens. On le diffuse ce matin en matinale. Il y aura de la musique comme d'hab. Aujourd'hui, le dernier album, excellent album d'ailleurs, j'ai trouvé, The Chinese Man. Et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ça tourne en boucle dans pas mal de médias. Le gel revient, le gel est là. Oh là là, il n'y a plus de saison. Les agriculteurs paniquent. Bref, vous voyez le délire. Le truc, c'est que c'est quasiment normal. Ce qu'il était moins, c'est d'avoir 30 degrés la semaine dernière. Vous entendrez Laurence, tout à l'heure, qui est maraîchère, nous parler des seins de glace. Elle ne plante jamais rien avant. Avant Saint-Servais, point d'été. Après Saint-Servais, plus de gelée. Ce dicton suggère que l'été ne commence vraiment qu'après la période des seins de glace et que le risque de gelée disparaît après cette date. Et ça tombe bien parce qu'elles ne sont pas passées ces dates. La Saint-Mamère, c'est le jeudi 11 mai, la Saint-Pancras, c'est le vendredi 12 mai, et enfin la Saint-Servais, le 13 mai. Il va donc falloir s'armer d'encore un peu de patience si vous voulez planter quelques graines. 3 semaines plus ou moins. En attendant, pour vos fruitiers, je vous donne un excellent site, ça s'appelle paisible.com, qui donne tout un tas d'astuces pour les protéger. En tout cas, sacrée mère nature. Allez, un peu de patience, parfois ça fait pas de mal. On se retrouve dans un instant avec Caroline Descloître et le spectacle. Avec le reste et rivage, on écoute Chinese Man, Too Late.
Oh hey, didn't see you there. While I've got your ears, there's something I'd like you to hear.
When it's dead, you had a little. Born is mad in New York. My daddy's dead and he can't go.
In the doses, the toxins, the antidote. If the son come from God, somebody gotta be Joseph. Blood on my hands, cause Papa handed me roses. Branded me dope, but not enough for Carnegie Hall. Traveled the globe, but still struggle to try to be whole. Part of the Odyssey, Homer jotted us how to be home. The hero journey, Greek old, ego death is cheat code. Free myself through keyholes, he done left the pitfall. Same toilet, different shit show. Do me your stogie, same schizo. Rumi your Allan Poe, grim prose. Julie blossom into primrose. Kinfolk, trees fall far from the apple cider gin toes. Fix the rider to have lick yours. Appetizer's main course, but don't get hung over the painful. Got a stomach odor aches though. Mud come with rain, so jump around my house a pain song.
Le dernier album de Chinese Man, ce morceau s'appelle Too Late, j'ai vraiment adoré cet album. Vous êtes bien sur Radio Barthas et nous sommes en ligne avec Caroline Descloître, bonjour.
Bonjour.
Caroline, vous êtes l'une des trois metteuses en scène et comédienne de la création théâtrale qui s'est passée autour du lac de Nossac, ça s'appelle Restez Rivage, de la compagnie Ej-Ej-Tac, une création théâtrale presque documentaire autour du village englouti de Nossac. Et comment elle est née cette aventure ?
Alors cette aventure, elle a commencé il y a à peu près 3 ans, vraiment par hasard, parce que donc nous, on n'habite pas du tout dans la région, on habite dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, Et en fait, au détour d'une randonnée en vacances, on a rencontré la grand-mère d'une amie qui habite au bord du lac de Nosac. En lui posant des questions sur le lac, elle nous a raconté que voilà, le lac c'était super, mais qu'avant c'était son village et qu'il avait été rasé puis englouti. Et voilà, elle nous a raconté comment ça s'était passé. Et en fait, cette rencontre, cette histoire, elle nous a beaucoup marqué. Et elle nous a beaucoup questionné un peu sur le rapport à l'héritage qu'on pouvait avoir après ça, comment on fait pour engloutir un village, comment on vit avec ça après, comment les gens qui arrivent après peuvent s'installer et construire leur vie malgré ce passé. Et on a commencé un peu à travailler sur tout ça et puis à enquêter, à venir passer du temps ici, à rencontrer des gens et à les écouter nous raconter leur Nosac à eux, quoi.
Fameux point de départ, en effet. Est-ce qu'il y a eu des mobilisations au moment où les gens ont appris qu'ils allaient se faire exproprier? Est-ce qu'il y a eu de la colère ou finalement une forme de résignation? Est-ce que vous avez pu en apprendre davantage là-dessus?
Oui, beaucoup. Il y a eu des mouvements de contestation assez importants et des manifestations qui ont rassemblé pas mal de monde à l'époque, donc surtout en 76-77. Mmh. Donc nous, on a rencontré pas mal de personnes qui étaient assez engagées dans ces luttes. Et puis on a aussi rencontré des personnes qui assez vite ont été plus résignées, on se sont dit que de toute façon c'était pas possible de lutter et qui ont plutôt essayé de négocier pour défendre leurs intérêts et de lutter d'une autre manière en tout cas. Et puis aussi des personnes qui se sont résignées et qui sont parties, mais en tout cas il y a eu quand même un mouvement de lutte qui a été assez important malgré tout.
Et puis ça fait écho aussi à d'autres époques, hein, même 40 ans après.
Complètement. Et nous, c'est ça aussi qui nous intéressait, c'était de voir comment cette histoire-là, il y a 40 ans, elle pouvait résonner aussi actuellement, résonner avec d'autres luttes, résonner aussi avec même des questions climatiques, de submersion, d'engloutissement, de paysages qui se retrouvent transformés. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout que les personnes qu'on rencontre nous racontent comment elles ont fait pour vivre avec ça et pour avancer malgré tout. Et on a aussi, par exemple, passé du temps avec un guide de pêche du lac de Nosac, un expert de la faune et de la flore du lac, qui nous a aussi beaucoup raconté comment, en même temps, ce lac, il a aussi permis à tout un nouveau écosystème de se développer et que c'était aussi un lieu qu'il faut aussi vivre le tourisme, qui a permis une nouvelle faune, une nouvelle flore de se développer. Donc, il y avait aussi de la vie sur tout ça.
Un mal pour un bien quelque part. Alors vous avez coécrit, mis en scène et vous interprétez ce spectacle avec Marie Bourin et Lauriane Durix. Comment vous avez bossé toutes les trois? Est-ce que vous aviez la même idée du spectacle ou tout s'est installé au fur et à mesure, petit à petit?
Alors au début, nous on travaille ensemble depuis quand même longtemps, donc on a des façons de faire ou des visions du spectacle qui sont quand même assez proches. Mais nous, ce qui nous a intéressé au début, c'était que cette histoire, pour chacune de nous trois, elle résonnait très différemment. Même quand on essayait de se projeter, il y en avait une d'entre nous qui trouvait ça vraiment très très dur, surtout que les gens n'aient pas de... et puissent pas léguer l'héritage de à quoi ressemblait leur village, montrer leur maison d'enfance, etc. Une autre qui trouvait ça aussi un peu joyeux de se dire, en fait, c'est aussi une façon de repartir à zéro. Enfin, on avait vraiment des approches très différentes. Et donc, pour écrire ce spectacle, on a enquêté beaucoup toutes les trois, donc avec beaucoup d'entretiens, de rencontres sur place. Et après, on a aussi eu vraiment des temps où on est allé écrire chacune de notre côté dans un endroit qui était un peu important pour nous, pour essayer justement de tirer le fil de pourquoi est-ce que personnellement cette histoire nous touchait. Et donc dans le spectacle, ce qu'on essaye de donner à entendre, c'est qu'il y a cette histoire et puis il y a ces trois individualités, ces trois personnalités qui la découvrent et qui enquêtent sur tout ça et que ça vient un peu chambouler sur des questions qui lui sont propres. Donc on a travaillé comme ça un peu avec une enquête qui était vraiment notre fil qui nous réunissait toutes les trois, et puis en essayant aussi d'explorer, d'écrire des scènes où on racontait plus comment pour chacune cette histoire venait nous toucher sur des points précis. Et puis une fois qu'on avait un peu écrit toute cette matière texte, enquêté, là après on a commencé à essayer des choses sur scène. Et puis on était entouré aussi de toute une équipe pour travailler la lumière, la scénographie, la musique et aussi la danse, parce qu'on a eu aussi une approche un peu du mouvement. pour ce spectacle. Donc voilà, on a testé des choses ensemble à trois, mais ça a été vraiment une création très collective.
Si on parle des habitants-habitantes, comment ils et elles s'inscrivent et s'intègrent dans le spectacle, si c'est le cas ?
Alors nous, on est venus plusieurs fois. Donc, toutes nos rencontres, on les a vraiment enregistrées et filmées. Et après, on a tout retranscrit. Donc, d'où les habitants et les habitantes qu'on a rencontrés sont présents dans le spectacle, déjà parce que y a vraiment des moments où on reprend leurs mots, où on essaye de vraiment les incarner, de porter leur voix, des moments où on raconte les rencontres qu'on a faites et où ils sont nommés. Ça devient aussi des personnages un peu de ce spectacle. Et puis, à l'issue du spectacle, on a tout un temps qui est plus un temps d'exposition, d'une sorte d'installation, où là, les gens peuvent vraiment découvrir des photos des personnes qu'on a rencontrées. On a aussi réalisé un film. Pablo Albandea, qui est vidéaste, nous a suivis pendant toute cette enquête et a réalisé un film qui est complètement disponible, qui est projeté à la fin du spectacle et puis que les gens peuvent revoir après. Donc tout ça, ça fait que les habitants et les habitantes ont une place assez centrale. Donc nous, on a essayé de vraiment beaucoup leur travailler avec eux pour qu'ils soient déjà à l'aise avec ça, pour récolter leurs paroles. Et y en a qui ont vraiment été très impliqués dans notre travail, qui nous ont vraiment beaucoup aidés, qui nous ont donné beaucoup d'archives, de témoignages, qui nous ont mis en lien avec d'autres personnes, parce que ce qui a été très beau, c'est que nous, toutes les rencontres qu'on a faites, c'était toujours une personne qui nous disait « Ah, vous devriez aller rencontrer un tel ou une telle qui pourra vous raconter des choses. » Et voilà, du coup, pour nous, dans le spectacle, c'était très important que ces personnes, elles aient une place centrale. Donc, c'est vraiment le cœur de ce spectacle, c'est ces personnes-là.
Alors c'est assez fou parce que finalement ça a dû refaire monter à la surface, si je puis m'exprimer ainsi, des émotions qui quelque part étaient peut-être enfouies un peu loin.
Oui, tout à fait. Et là, c'est ça qui était intéressant aussi pour nous, c'était de voir que pour les personnes qu'on a rencontrées, il y avait aussi un rapport à la mémoire qui était très différent. On a rencontré des gens qui avaient plutôt cherché à oublier pour qui avaient un peu transformé tous ces souvenirs avec le temps, aussi parce qu'ils étaient trop douloureux. D'autres personnes pour qui c'était encore très vif, qui sont encore finalement très engagées dans ce combat, pour lesquelles il y a encore en fait beaucoup de colère et de sentiments d'injustice. Et puis il y a quand même d'autres où il y a eu un peu un travail, on va dire, d'apaisement à nos sacs autour du lac depuis quelques temps. La mairie, elle a fait un parcours historique qui commence à nommer, à raconter ce qui s'est passé. Mais on sentait que finalement cette parole, elle est encore assez récente, un peu taboue aussi parfois, de remuer ce qui a été assez douloureux. Et donc oui, il y a eu des moments où pour les personnes, c'était des souvenirs qui n'étaient pas simples à remobiliser. Et en même temps, on a senti la plupart du temps quand même un vrai plaisir à re-raconter comment était le village avant, à remobiliser des souvenirs d'enfance, de cette vallée. Ça, c'était assez beau à observer.
Ouais, on comprend en tout cas que votre travail, c'est d'essayer de retranscrire sur scène ces émotions. Est-ce que ça a été facile ?
Ça a été des grosses questions. Ça n'a pas été facile en soi parce qu'on avait aussi beaucoup, beaucoup de matière, parce qu'on a passé vraiment, je crois qu'on est rentré avec plus de 30 heures d'enregistrement d'entretien, des archives, des explications, des livres qu'on avait lus. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc le plus difficile, ça a été de trouver finalement quelle forme donner à tout ça et puis de faire des choix de ce qu'on racontait ou de ce qu'on racontait pas. Mais finalement, ce qui était assez simple pour après tirer le fil, c'est que c'est une histoire qu'on nous a racontée avec tellement de détails, de plaisir, avec plein d'angles différents, qu'on avait finalement une narration qui était très claire. Tout ce qui s'est passé là-bas, on avait quand même réussi à avoir une vision assez claire de cette histoire. Et puis on avait quand même rencontré des personnalités qui étaient, oui, vraiment déjà des personnages, et donc qui étaient des personnes très intéressantes pour nous à s'emparer sur scène. Donc non, oui, c'était pas simple, mais ça a été très joyeux et puis on avait vraiment beaucoup de matière à explorer.
Reste et rivage, c'est le titre, assez évocateur, mais aussi comme je dirais une part d'inconnu, parce qu'on voit pas, on s'imagine pas ce qu'il y a sous l'eau. Le titre, il vous est venu comment ?
Alors on a mis beaucoup de temps à le trouver et finalement ce qui nous a fait choisir ce titre, c'était que pour nous ça nous permettait de... En fait on s'est rendu compte qu'on avait rencontré que des personnes qui étaient restées. Il y a beaucoup de personnes qui au moment des expropriations sont allées vivre ailleurs, dans d'autres départements, etc. Et qu'on n'a pas cherché à les rencontrer. Et nous ce qui nous intéressait c'était vraiment de savoir comment on fait pour vivre avec cette histoire-là quand on vit vraiment au bord du lac et qu'on reste ici au bord du rivage. Donc c'était vraiment cette image-là qui pour nous parlait et nous aussi c'était un peu la sensation que c'était un peu ce qu'on avait fait, qu'à la fois on n'a pas vécu tout ça, en même temps on a envie de plonger dans cette histoire, en même temps on l'observe un peu de l'extérieur, donc on avait la sensation que ça décrivait pas mal d'où on parlait, cette question du rivage. Donc ça nous est venu un peu comme ça.
À quel moment on estime, après un travail comme ça, hein, de 3 ans presque, qu'un spectacle est terminé dans sa création ?
Alors, ce qui est particulier un peu dans le spectacle vivant, c'est que, en fait, nous, la date de première du spectacle, on l'a depuis très longtemps. Donc, il y a un peu, de toute façon, un jour où il faut arriver à se dire...
deadline.
De toute façon, c'est deadline. Ce jour-là, ça doit être créé. Du coup, on compose un peu par rapport à ça. Moi, je crois que le jour où je me suis dit, OK, là, on commence à avoir... une forme et à arriver vers ce qu'on veut, c'est finalement assez tard dans la création. Mais c'est au moment où j'avais l'impression que d'avoir qu'on entendait un peu toutes les personnes que nous on avait rencontrées, même si on n'avait pas tout dit, pas tout mis, coupé des choses, qu'on avait réussi à finalement à condenser les mots de tout le monde, à les retraverser, et où nous on arrivait à parcourir une heure de spectacle et que ça me faisait repenser un peu à toutes les personnes que nous, on avait rencontrées sur place. Je crois que c'est le moment où je me suis dit, ah là, je crois qu'on commence à arriver vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait. Et puis après, il y a aussi le moment, nous, c'est un moment souvent important, le moment où les lumières arrivent, où on choisit des costumes. Il y a des choses qui finalement prennent vraiment une couleur importante et on sent qu'on arrive vers la fin, quoi.
Alors si j'ai bien vu, c'est le 6e spectacle de votre compagnie Hashtag. Quelques mots sur celle-ci. Vous dites sur votre site, nous explorons notre façon de créer avec et à partir du réel en prenant la rencontre avec des anonymes entre guillemets comme point de départ. C'est l'essence même de la compagnie.
Oui, c'est vraiment une démarche qui pour nous est chère. Et moi, je sais que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Il y a vraiment ce désir, comme pour la rester rivage, de se laisser aussi avoir par des rencontres et par des hasards de la vie. Qu'il y a là, il y a vraiment cette histoire qui nous est arrivée un peu par hasard. Et de se dire, il y a déjà tellement de choses intéressante et passionnante que les gens ont à dire, que moi j'ai envie de partir de cette matière-là pour créer et pour faire entendre ces voix-là. Et donc c'est vraiment ce qu'on a fait sur Esprit Rivage, c'est ce qu'on a pu faire sur la dernière création que j'ai portée Puisque nous sommes sauvages, qui était autour des lieux de fête et de sociabilité, où ça a été tout un travail de récolte de témoignages. Et oui, ça fait vraiment partie de notre essence de vouloir vraiment partir du réel et de ce que les gens ont à nous raconter. Et après, nous, notre travail, c'est d'essayer d'en faire une forme partageable pour tout le monde. Mais oui, c'est vraiment important pour nous.
Ça veut dire quoi d'ailleurs, hashtag ?
Alors, ça veut dire bonjour, bonjour, merci en danois. Et c'est un nom qu'on a choisi il y a pas mal d'années parce que quand on cherchait des noms de compagnie, ce qui nous intéressait c'était de trouver pas mal des sonorités qui nous plaisaient, parce que nous on a une approche du texte qui est aussi vraiment dans une approche du son, des sonorités que ça produit. Et donc on a cherché dans des sonorités et hashtag on a bien aimé ces sons-là.
Pour finir, on sent une certaine part d'engagement, évidemment, dans votre travail. Ouais. Est-ce que, selon vous, la culture doit être systématiquement engagée ? Est-ce que c'est son rôle ?
Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire de l'art qui ne soit pas engagé, même les films ou les pièces qui ont, on a l'impression qu'ils sont pas engagés ou qui reproduisent des schémas plus habituels. Finalement, pour moi, elles donnent quand même une représentation du monde qui a un poids et qui a une forme d'engagement, finalement. Donc, moi, je crois qu'il n'y a que de l'art engagé et qu'après, c'est des curseurs qu'on pousse. Et pour moi, c'est quand même assez important, oui, de porter un propos, une parole que je trouve juste et nécessaire. Et pour moi, c'est important de me poser ces questions-là. Mais je crois que dans tous les cas, tout ce que je peux voir ou entendre, il y a une forme, finalement, d'engagement et de politique dans tout ce qu'on crée et tout ce qu'on produit.
Mmh. Restez rivage, auditeurs, auditrices de la compagnie Ej Ej Tak. Ce sera à Langogne ce samedi à partir de 20h30. C'est un spectacle co-accueilli avec des scènes croisées, les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festivalier La Saison. Toutes les infos, les résas, c'est sur scènescroisées.fr. Merci beaucoup, Caroline.
Merci beaucoup.
Caroline Descloîtres, l'une des trois metteuses en scène et interprète de ce spectacle, avec Marie Bourrin et Lauriane Durix pour la compagnie Ej Ej Tak. Excellente journée et à bientôt. Allez, dans un instant, on part à la rencontre de Laurence, qui est maraîchère à Bédouès. On continue d'abord avec le nouvel album de Chinese Man, We've Been Here Before.
Déjà vous, we've been here before, today's not new. Every station is the same song too. It plays on loop. Deja vu.
I'm not in the dark about who to vote for while sitting in the dark. Good folks, I think we need a talk. Wisdom taught, name your kids after they speak and walk. They should keep the torch to lead us out, these Egyptian whores. It's long way from the soup dinners, four room, bitter cool winters to heated pools even. All my goons went from baboons to zookeepers. When you was too sheepish to join the wolves eating, my OG carried two pieces. Bucket for the chicken sold to the earthy, two season. Newsreader, gloomy forecast like Brutus, two Caesar. Drew me flow plans to tunnel through Egypt to the gold found. I'm just trying to dribble through my homeland. The gods must be crazy, dealing with this cold glass. Smoked out cousin, whole lot of nothing. Nose running, wanna go clubbing. I'm the gold funding, Winnie O, love him. Pity the sheep, follow the wolf. Making the meal from low hanging fruit. They keep telling me gone are the rules. Kids mouthing off, the long and the tooth.
Chinese Man, We've Been Here Before, c'est d'ailleurs le nom de l'album. Vous êtes bien sur Radio Bartas, dans le cadre de l'émission Producteur de Sens, diffusée le vendredi à 17h, une semaine sur deux en alternance avec le dimanche à 11h. Je suis allé à la rencontre de Laurence Maraîchère à Bédouès. Rencontre, c'est parti. Ben voilà, nouveau numéro de Producteur de Sens, Bédouès, chez Laurence Maraîchère. Accueilli par les chiens, comme il se doit. Salut les loulous. Salut Laurence. Ça va bien?
Ça va, toi?
Ouais, ça va, ta forme?
Ouais.
C'est sympa chez toi?
Ouais.
Voilà.
On aime bien, oui, effectivement. Alors, je suis Laurence, installée à Bédouest depuis 2017, maraîchère depuis 2014 suite à un changement de vie, on va dire. J'ai fait ma crise de la quarantaine, donc après 20 ans dans le salariat, où j'étais plutôt dans le domaine commercial, management. J'ai voulu faire ce qui me semblait être ce pour quoi j'étais faite.
T'as combien d'hectares ici, à peu près ?
Techniquement parlant, j'ai 13 hectares de surface agricole utile, la SAU, et j'en cultive 2.
C'est un choix ou c'est parce que tu te dis 2 hectares, c'est suffisant et...
C'est-à-dire que mon activité principale, c'est le maraîchage diversifié. Et 2 hectares en maraîchage diversifié, c'est déjà, à mon sens, beaucoup pour une seule personne.
Tu peux nous expliquer ce que c'est que le maraîchage diversifié ?
Oui, pardon. Le maraîchage diversifié, c'est donc faire une multitude de légumes au gré des saisons. Donc, c'est-à-dire, je produis à peu près une quarantaine de légumes différents entre les oignons doux, les oignons jaunes, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines, les radis, l'ail, les betteraves, etc. etc. quoi. Tout ce qu'on peut... Presque tout ce qu'on peut manger et ce qui veut bien pousser ici.
On va voir les poules ?
Oui. Ah.
T'en as combien des poules ?
J'en ai 240.
Oh,
alors oui, ça fait toujours cet effet-là, mais 240 à titre professionnel, c'est considéré comme un petit élevage.
Donc là, élevé en plein air, c'est vraiment pour les œufs. Tu fais de la viande ou
Non, pas non. du tout, uniquement pour les œufs. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je suis en maraîchage biologique. Ouais. Voilà, donc les poules sortent tous les jours. Et là, elles sont dans des petits poulaillers qu'on dit mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer, bon, pas très souvent, mais au minimum 3 fois dans l'année, de façon à ce qu'on puisse changer les parcours et qu'elles puissent avoir un peu d'herbe. Là, tu vois le parcours qui était enherbé il y a un mois, ben voilà dans quel état il est après le passage des poules. Il n'y a plus d'herbe.
J'adore.
Et il y a de l'autre côté qui était un autre parcours, pareil. Donc on essaie de faire tourner de façon à ce que l'herbe puisse avoir le temps de repousser. Et même d'un point de vue sanitaire, c'est mieux pour elle.
Tu dis agriculture bio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire label, ça veut dire cahier des charges ou alors tu t'es juste dit, moi je suis en bio mais je veux pas de label, je veux... Comment ça se passe exactement ?
Je suis, on va dire, comme on dit, certifié bio, c'est-à-dire que j'ai le label agriculture biologique. Ça sous-entend que je respecte le cahier des charges et que je suis contrôlée au minimum une à deux fois par an par un... C'est minimum une fois, voire deux fois, où il y a vérification et cohérence entre toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente. Et j'ai même eu une fois, donc ça c'est aléatoire, une analyse inopinée de pommes de terre. Voilà, j'ai eu un prélèvement de pommes de terre de fait. Et ils sont allés rechercher s'il y avait des matières actives interdites.
Ouais, voilà. C'est sérieux, c'est génial. Et les contrôles sont gratuits, ils viennent comme ça ou tu dois quand même payer des choses à l'année ?
Alors on paye la certification. C'est un minimum de 450 euros par an. Et donc ça nous ouvre quand même le droit de pouvoir apposer le label agriculteur biologique sur nos produits. Et ce qui nous permet aussi, pour moi ce n'est pas le cas, mais de pouvoir vendre dans les magasins bio. Si nous ne sommes pas certifiés, labellisés bio, on ne peut pas vendre dans tous les magasins bio. On ne peut pas s'auto-déclarer bio.
On va parler des canaux de distribution et des boutiques paysannes, évidemment. Un petit peu d'actu, évidemment, il y a un gros mouvement d'agriculteurs, agricultrices qui s'est levé depuis quelques mois, notamment pour parler du coût, hein, et effectivement, que les producteurs, productrices ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Quel est ton regard là-dessus, sans forcément nous dire ce que tu gagnes ? Est-ce que pour toi ça va ? Est-ce que tu connais des maraîchers, maraîchères qui sont en galère ? Quel est ton regard sur cette agriculture un peu que tu poses aujourd'hui ?
Alors oui, bien entendu, je j'étais, on va dire, entre guillemets, solidaire du mouvement, parce que je sais que, notamment dans les circuits longs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur activité, malgré toutes les heures qu'ils passent à travailler. Personnellement, je ne me suis pas sentie concernée, puisque je ne vends qu'en vente directe, donc je valorise au maximum ma production. Et aujourd'hui, moi, je ne vis, on va dire, à 98% que des ventes de mes produits. Je fais une déclaration PAC, donc politique agricole commune, hein, les aides de l'Europe, mais c'est quoi, c'est 1000 euros. Je ne vis pas des aides de l'Europe, donc le jour où il n'y a plus d'aides de l'Europe, ça ne changera pas ma vie. Ce que je regrette, c'est que les seules réponses qui ont été apportées aux problématiques des agriculteurs, c'est finalement, vous pouvez continuer d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc là, c'est pas normal, c'est aberrant et la réponse n'a pas été apportée. Ce n'est pas ce que demandaient les agriculteurs. Je ne ferai pas plus de commentaires, je ne veux pas faire de politique. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage.
On peut, comme tu veux, on va où tu veux. Ah ouais, ouais, avec grand plaisir.
Le jardin aussi.
Ouais, ça c'est. Alors justement, on va parler des réseaux de distribution. Donc toi, tu es en vente directe. Donc on va dire que c'est directement de toi au consommateur.
C'est ça.
J'en fais partie. Et mais il y a aussi boutique paysanne. Alors commençons par le début. Les consommateurs comme moi, donc là, pas de marge en plus, contrairement à ce qui peut être prodigué dans certaines boutiques. Explique-nous comment ça marche.
Alors, le réseau des boutiques paysannes, donc, c'est considéré comme de la vente directe, puisque les boutiques sont gérées, autogérées par les producteurs, et nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, à chaque fois qu'un client vient dans une boutique paysanne, eh bien, il est servi par un producteur, un agriculteur. Donc ça, c'est considéré comme de la vente directe. Alors, juste un petit rappel, la différence entre vente directe et circuit court. Circuit court, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça veut dire que circuit court, on peut avoir un intermédiaire. Donc quand on vend par exemple à un magasin bio, ça c'est du circuit court, puisqu'il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, qui est le magasin bio. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne fais que de la vente directe, donc marché, vente à la ferme et boutique paysanne.
Ici, donc, c'est celle qui est sur l'Esplanade, hein, c'est ça?
C'est ça, la boutique chez les paysans de l'Esplanade, à Florac. Et je suis également dans une autre boutique paysanne qui est à Gignac, dans l'Hérault, puisque je ne l'ai pas dit, mais en 2014, j'étais installée dans l'Hérault.
Alors, vous êtes combien dans la boutique paysanne ici sur l'Esplanade à Florac? Et concrètement, comment ça se passe pour y rentrer, si jamais les producteurs, productrices nous écoutent?
Alors, nous sommes 16 producteurs. Nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, c'est une boutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, autogérée. Donc, quand vous dépensez 10 euros à la boutique, il y a 9,20 euros qui revient au producteur, puisqu'il y a un petit pourcentage qui est là pour payer nos factures d'eau, d'électricité, la location, les charges courantes et les investissements pour la boutique. Ça fonctionne de la façon suivante. Candidat intéressé doit un minima cotisant à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, donc avoir un vrai statut d'agriculteur. On peut être aussi artisan, donc cotisé à la Chambre des métiers, mais la vocation des boutiques paysannes, c'est quand même plus des agriculteurs. D'ailleurs, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait maximum 30% d'artisans, pas plus. Donc, comment nous y rentrons? Quelqu'un d'intéressé peut venir proposer sa candidature par écrit. En fonction des produits qu'il propose, s'il y a déjà un producteur présent qui fait les mêmes produits, c'est celui qui est déjà présent qui dit « moi, oui, effectivement, j'arrive pas à assurer en quantité, donc pourquoi pas ?» Mais il peut aussi mettre son veto en disant « non, ce n'est pas possible ». Mais il y a des produits que nous n'avons pas. Voilà. Mmh. Par exemple, nous n'avons pas de volaille, de chair à la boutique. Les candidats sont les bienvenus, mais il y a une sélection à l'entrée. Mmh. Et après, ça implique aussi du temps à consacrer à la boutique, puisque nous avons des réunions tous les mois. Tout est autogéré, donc il faut faire tous les travaux d'entretien et autres ensemble. Il y a les permanences, il faut livrer régulièrement. Ça n'est pas que poser ses produits et repartir.
Ouais, heureusement, c'est ce qui justifie, justement, tu parlais des 10 euros tout à l'heure, quand même, un revenu assez conséquent. Ça fait partie d'un tout, quoi.
Alors, ce sont des choix. Ça sous-entend que si on est un gros producteur avec des gros volumes, ça ne peut pas suffire sur un débouché. Et c'est pour, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, quelqu'un qui est habitué à poser, à vendre moins cher, mais à poser ses produits et repartir, ce sont des choix. Là, on gagne plus, mais on donne plus de notre temps. Ce sont des choix.
Là, on est devant ton beau potager là, avec les poireaux. Ah, il y en a partout. C'est ça qui est génial. On dit souvent, finalement, que c'est assez simple de devenir maraîcher, maraîchère. Est-ce que c'est simple? Et toi, comment t'as appris au final?
Alors, mes parents étaient agriculteurs, mais absolument pas du tout dans ce secteur-là. Mon père était, céréalier et producteur de melon. Mais j'ai un BTS agricole en formation initiale, grande culture, donc rien à voir. Donc quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai fait un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, pendant un an, et là spécifiquement sur le maraîchage biologique. Pourquoi le maraîchage ? Parce que dans l'Hérault, le foncier est très difficile d'accès et je vivais sur une parcelle agricole. Et donc, c'était la seule activité agricole que je pouvais faire sans avoir de recherche de foncier difficile à faire.
Et qu'est-ce qui t'a amené ici à Bédouès ? C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ou comment ça s'est passé ?
Mon conjoint est originaire de Lozère, mais il travaille à l'extérieur. Et en 2011, on cherchait quelque chose dans les Cévennes, gardoises, lozériennes, enfin dans le secteur, quoi. Et en 2012, ça ne s'est pas fait. Il se trouve que je me suis quand même installée dans l'Hérault, parce que l'idée, c'était de venir en Lozère et de passer le cap du salariat à l'exploitation agricole. Ça ne s'est pas fait, donc voilà, on a continué de chercher, nous sommes persévérants. Et en 2017, voilà, nous avons trouvé ce site qui est une folie, on va dire. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ça reste quand même une folie. Mais nous assumons.
Ah ça, je l'ai voulu souvent, ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier de maraîchage comme ça, selon toi ?
Le plus dur, c'est le côté physique, parce que comme c'est une petite surface, je suis un peu mécanisée malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de tâches qui se font à la main. Et comme on dit, la terre est basse. Et que quand, chaque année qui passe, c'est un petit peu plus dur à faire. Il faut pouvoir se préserver, parce que là, c'est la onzième année. Et je reconnais que j'essaie de réfléchir à comment je fais mes tâches pour me préserver physiquement. Mais il y a tellement de choses qui sont pleines de joie quand on voit, quand on sème des graines, qu'on plante une petite graine de tomate, qu'on voit qu'elle pousse, qu'après elle donne des tomates, c'est quand même magique. Donc tout ça, ça passe au-dessus des contrariétés ou des petits problèmes qu'on peut avoir. Et ce qui est difficile aussi, c'est de faire avec le climat qui évolue, même ici. Mais peut-être que ce sera la Côte d'Azur française plus tard.
On continue le voyage avec Laurence. Pour la prochaine question, un petit mea culpa de ma part, car ma question ne va pas être claire sur la question de la restriction de l'eau pour les producteurs, productrices en ce qui concerne le label AB. La production biologique doit faire une utilisation responsable de la ressource en eau et le processus de production doit prendre en compte les conditions climatiques et locales. Bref, ma question n'était pas claire, mais Laurence, avec brio, remet tout à sa place. Merci beaucoup, Laurence. Que le voyage continue. Donc, dans le cahier des charges pour le bio, je pense pas que l'eau soit... donc, t'as pas de restriction d'eau, entre guillemets. Je pense pas. Hein, c'est pas dans... Si, ça y est, ça a changé. C'est trop beau.
Oui, nous avons des restrictions d'eau parce que là, coule, peut-être on l'entend derrière le micro, il y a le Tarn, donc je suis située dans un méandre du Tarn. Donc pour pouvoir prélever de l'eau, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est une autorisation préfectorale, il faut justifier des surfaces, des besoins cohérents avec les surfaces. Et quand nous sommes en état de crise ou d'alerte, il y a des restrictions et un planning, ça s'appelle les tours d'eau, où on ne peut pas prélever de l'eau comme on veut, quand on veut. Donc là, on peut aller voir, hein, j'ai une pompe qui prélève l'eau dans le Tarn et j'ai un compteur d'eau. Et je dois chaque année donner mon provisionnel en début d'année et à la fin d'année de relever le compteur d'eau. Et on peut avoir des contrôles de la police de l'eau.
Voilà. Attends, ça veut dire que tu arrives à prévoir la quantité d'eau dont tu vas avoir besoin à l'année ?
Ben, il le faut. Quand on fait la demande d'autorisation de prélèvement de l'eau, il faut pouvoir donner un prévisionnel. Donc ça reste aléatoire, mais c'est aussi, nous sommes des professionnels, on a beau être agriculteur, et aujourd'hui on ne vit pas avec l'air du temps, il faut prévoir, anticiper et gérer les choses, même l'eau.
L'année dernière, on avait connu une sécheresse assez exceptionnelle. Est-ce que tu as réussi à t'en sortir, à passer à travers les gouttes ? Sans jeu de mots, évidemment.
Paradoxalement, nous avons eu moins de restrictions que l'année d'avant. Très surprenant. Mais les tours d'eau sont quand même faits de façon raisonnée et sensée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que nous avons par exemple dans le maraîchage, on peut prendre de l'eau à certains moments de la journée, enfin de la nuit plutôt. En cas de restriction, il faut mieux arroser la nuit. De toute façon, moi je n'arrose que la nuit, les plantes en profitent beaucoup mieux. Et je suis tout en goutte à goutte pour justement limiter la consommation d'eau.
Ça, c'est un bon conseil, hein. Ne jamais arroser en journée, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, surtout en aspersion. On perd plus de 50% de l'eau qu'on souhaite mettre.
On est mi-avril quand je suis chez toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des poireaux, qu'est-ce qu'on a dans les paniers ?
Eh bien, l'hiver est terminé et le printemps n'est pas encore arrivé parce que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de serre ici. Je fais tout en plein champ, donc ma saison démarre vraiment plutôt en juin. Là, c'est la période creuse. Il me reste du poireau, quelques betteraves, quelques blettes, mais c'est tout actuellement. Et là, je suis en train de préparer la saison suivante, c'est-à-dire que j'ai semé et planté des oignons, betteraves, blettes. J'ai des fraisiers également, j'ai repiqué des topinambours, alors ça fait pas très rêver, ça fait pas rêver, hein, mais les tomates, les poivrons, tout ça, c'est encore bien au chaud, ils ne sortiront que mi-mai. J'attends toujours les seins de glace, je reste comme les anciens. D'ailleurs, nous faisons bien, hier il faisait très chaud et aujourd'hui, moins chaud.
Aujourd'hui, il y a un vent, mais bon, c'est agréable quand même de bosser par ce temps-là, peut-être plus que dans les fortes chaleurs.
La semaine dernière, on se serait cru en été, à 30 degrés à l'ombre, en plein après-midi, là, je ne sais pas combien il faisait au soleil. C'était très très chaud, oui, très très chaud. Moi, je préfère un temps comme ça, oui.
Donc là, si j'ai bien compris, tu prépares tout pour amorcer ta saison. Est-ce que tu as des peurs, des craintes pour l'avenir, ou alors est-ce que tu es plutôt confiante et, en tout cas, ta manière de faire fait que, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera pour toi?
Alors absolument pas, on peut jamais être sûr de rien, mais dans cette profession, il faut un minimum positiver, sinon on peut pas durer.
C'est un vrai plaisir en tout cas d'être là, et puis donc on te retrouve, on retrouve tes produits à la boutique Paysan de l'Esplanade à Florac, et puis sur les marchés, tu fais des marchés aussi l'été ?
Alors ici non. mais comme voilà, j'ai gardé mon marché depuis 11 ans à Montarnaud, puisque j'étais à l'époque à Montarnaud dans l'Hérault, et mes clients fidèles, ben voilà, je peux pas arrêter ce marché là, c'est pas possible.
Merci beaucoup Laurence.
Merci à vous et peut-être à bientôt à la boutique de l'Esplanade.
Et voilà, émission que vous pouvez retrouver sur notre site radiobartas.net, rubrique producteur de sens. C'est la fin de cette matinale. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on fait la fête avec Radio Bartas ce vendredi à partir de 19h30 à la salle des œuvres en compagnie de DJ Flo, Cric et Croquette. Ça va être bienvenu. L'entrée, c'est juste l'adhésion à Radio Bartas, 5€. On se retrouve mercredi à partir de 8h30 en matinale. On parlera du festival Doc en Cévennes qui se tiendra début mai à la salle et du spectacle Le Sauvage qui se jouera ce vendredi à la Jeunette Verte. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Radio Arthas, on y est pas trop mal. On se quitte avec Chinese Man Trouble, c'est leur dernier album. À mercredi, portez-vous bien.
Yo, Chinese Man. Say she no feel like weight. Well on, your fibrous, pen your back. Girl dig, then talk, body firm, it a clap. Get your phone, make a pose, then a snap. Panic ground, bend your back. Do the 9:30, then a clap. Door knock, bed a rock. Full of action, in the place. And we up, they push, they light up. Then we come in like a DJ kite. We want box sweat, split light up. Santa where they cut them. We a party, we not in and of fuck. Me send a man to me, ting a girl alone for your touch me. She back it up on me like she a fuck me. She back it up on me like she a fuck me.
She back it up on me like she a fuck me.
Me tell her if you drop it, stop it, watch it, clap it. Up in the party, we strap with them. Them boy, they broke them money black in traffic. Not the pan we level, nothing we bracket. John Deanna drink white rum. Dollar car say them feel like home. She bring the supper for me beat like drum. Party a night in a feel like we on the kush the light up. Then me come like a BG kite we want boss sweat. Spliff light up Santa where they cup then. We a party we not in and off. Me send a man to me ting a girl alone for a touch me. She back it up on me like she a fuck me. She back it up on me like she a fuck me. Girl, you fear a travel, shape like a model. Coca-Cola body, you not go wobble. Bad man day, I fear if you want body. Love off your style, girl, sit down in a saddle. She ride it, turn up the bass. Damn, fuck up the place. Me, she a brace, panic. Say she don't feel like weight.